Place de la Toile, le magazine hebdomadaire de culture numérique.
Bonsoir à toutes et à tous. Au sommaire de l'émission, ce soir, plongé dans son ordinateur, Thibaut Henton répondra à la question « Pourquoi voit-on encore du GIF sur Internet ?» La lecture de la semaine « Internet et la rencontre amoureuse aux États-Unis » et puis le son, ce seront plutôt des sons en voie de disparition. Quant à notre invité du jour, Paul Edwards, pour parler de l'ordinateur, de la guerre froide aux controverses climatiques. Bonsoir Paul Edwards.
Bonsoir.
Vous êtes professeur à l'Université du Michigan où vous travaillez sur l'histoire des technologies et notamment sur les liens entre les données climatiques et la modélisation climatique en travaillant même avec des programmeurs sur certains modèles. Et si nous avons la chance de vous recevoir ce soir, c'est parce que vous êtes pour quelques mois à Sciences Po, à Paris, à l'invitation de Bruno Latour. Alors plaisir de vous recevoir car vous menez depuis longtemps des travaux qui sont très intéressants pour nous, qui traitent de culture numérique, des travaux qui interrogent l'histoire de l'ordinateur et de l'informatique dans une perspective large, et notamment l'histoire politique. La question des données climatiques, je l'ai dit, et on y reviendra, mais auparavant, le rôle et la place de l'ordinateur pendant la Seconde Guerre mondiale et surtout pendant la guerre froide. Alors ces deux sujets, données climatiques et puis guerre froide, apparemment n'ont pas beaucoup de liens, mais vous allez nous montrer qu'en fait, ils ont des liens, notamment à travers des personnes. Mais c'est par le tout début qu'on va commencer, Paul Edwards. L'intérêt de vos premiers travaux est de montrer à quel point l'ordinateur et l'informatique que nous connaissons doivent à ce qui se joue pendant la fin de la Deuxième Guerre mondiale et notamment la guerre froide. Alors par exemple, on pourrait utiliser une sorte de raccourci consistant à dire que l'informatique américaine, donc une grande partie de l'informatique mondiale, naît de la théorisation en 1947 par le président Truman de l'Endigment, donc la mission que se donnent les États-Unis de bloquer l'avancée du communisme partout dans le monde. Alors il faut que vous nous expliquiez comment est-ce que cette assertion que l'histoire de l'informatique serait aussi fortement liée à la théorie de l'Endigment, comment c'est possible, Paul Edwards?
Alors, qu'est-ce que veut dire l'endiguement? Ça veut dire à la fois contenir par le moyen de digues, mais on ne peut pas faire ça contre les avions. Et c'était ça la question de la guerre froide. Donc, il fallait faire ça de façon, disons, virtuelle. Contenir, ça implique un conteneur et un contenu. Et là, je distingue trois sortes. Il y avait d'abord l'Union soviétique et sa sphère d'influence qu'il fallait contenir à la frontière actuelle après la Deuxième Guerre mondiale. Il y avait aussi les EUA même, parce qu'il fallait se défendre contre une attaque éventuelle des bombardiers soviétiques. Moi, ce que je distinguais dans la guerre froide, c'était la façon de laquelle le monde entier est devenu une espèce de conteneur. Et tous les conflits qu'on observait partout dans le monde, du point de vue des États-Unis, devenaient des conflits qui faisaient partie de cette grande guerre froide. Alors, le lien avec les ordinateurs. Mm-hmm. Moi, je me demandais, quand je commençais cette recherche, pour réaliser une telle vision, l'endiguement, il faut des moyens. Et c'est des moyens matériaux, des moyens concrets. On parle souvent des armes, de la bombe nucléaire, bien sûr, mais il faut aussi deux autres choses. La première chose, c'est une défense contre les bombardiers soviétiques. Là, je vais revenir. Troisième chose, c'est de faire fonctionner une gestion des conflits partout dans le monde. Et ça implique non seulement des armes, mais aussi des moyens de communication et des moyens de surveillance. Et c'est là qu'entrent les ordinateurs dans l'histoire.
C'est-à-dire qu'ils sont d'abord, les ordinateurs vont être les outils, les moyens de l'organisation de cette guerre froide.
Oui. Pour moi, la première chose, c'est ce qu'on appelle le système SAGE, qui était le système de défense aérienne des États-Unis, qui était construit dans les années 50 et qui est très lié à l'histoire des ordinateurs dans plusieurs sens. D'abord, c'était le premier ordinateur du monde qui était construit pour travailler en temps réel. Avant, c'était conçu comme des calculateurs. Le système SAGE était construit pour contrôler des avions et pour les lier avec les radars qui allaient observer les frontières des États-Unis. Dans la conception, il y avait la possibilité que les ordinateurs allaient diriger les avions de chasse jusqu'à l'interception des bombardiers et même tirer les missiles des avions de chasse sans que le pilote rien fait. Ça, c'était la première fois qu'on avait une mémoire qui était très fiable et pas très chère. Forrester a trouvé que quand il a essayé de construire son ordinateur, le coût de stockage d'un bit pour un mois était $1. $1 par bit par mois. Vous imaginez aujourd'hui si un gigabit serait une fortune. Des milliards, des trillions d'euros.
Donc ça, c'est le lien. Donc Sage, c'est un lien à la fois le temps réel. C'est aussi, et ça, c'est vous montrez ça dans votre travail, c'est à quel point Sage va être important pour l'histoire de l'informatique. Ouais. C'est que Sage, c'est aussi ce qui permet en gros à IBM de devenir ce qu'il est devenu.
Oui.
Puisqu'on commande 46, je crois, énormes ordinateurs à IBM, ce qui permet à l'entreprise de fructifier à l'époque même et de devenir ce qu'elle va devenir par la suite, c'est-à-dire le leader mondial de l'informatique. C'est vraiment un moment comme ça, à la fois techniquement et industriellement, central dans l'histoire de l'informatique américaine.
En plus, Sage était le premier réseau informatique numérique, parce qu'il y avait 23 secteurs. Ils étaient liés par des lignes téléphoniques et des modems. C'était les premiers modems qui étaient faits pour Sage. Et les ordinateurs communiquaient entre eux pour que chacun pourrait avoir une espèce de photo de l'espace aérien en dessus de sa tête.
Alors, ce qui est quand même intéressant là-dedans, c'est qu'on a la vision, et ce qui est intéressant, c'est que les États-Unis eux-mêmes portent cette idée que les technologies, et notamment les technologies informatiques, obéissent à l'idée que ce qui va s'imposer, c'est la meilleure technologie. Alors qu'en fait, on s'aperçoit, en écoutant ce que vous dites, qu'au fond, c'est une vision extrêmement politique. Et ce qui est intéressant dans ça, c'est qu'au fond, les États-Unis se construisent avec l'idée que chez nous, on fait comme ça avec le meilleur qui va l'emporter, alors que l'URSS... elle construit ses technologies uniquement dans des buts politiques. Or, en fait, on s'aperçoit que c'est la même chose des deux côtés, Paul Edwards.
Oui, c'est la même chose de l'autre côté. Et ce qui est devenu la guerre froide, c'est un système qu'on appelle technopolitique. Une façon de poursuivre des buts politiques à travers la construction de techniques et technologies qui peuvent en servir. Et je reviens à la guerre froide, à l'idée du monde clos qui était le titre de mon premier livre. Ça veut dire que diriger une armée, des forces armées qui pourraient aller partout dans le monde, les diriger en temps réel, comprendre tout ce qui se passait sur toute la surface de la Terre était le but de ce système militaire, du stratège militaire des États-Unis, de l'endiguement. Et pour ce faire, il fallait construire des techniques et des technologies nouvelles. C'est l'origine, par exemple, des satellites espions, des missiles, bien sûr, intercontinentaux, des sous-marins nucléaires, etc., etc. Et tout ça revenait à l'économie des États-Unis pendant la guerre froide. Et on parlait souvent, à l'époque, d'un triangle entre les militaires, les académiques, les grandes écoles et l'industrie.
Mais est-ce que ça veut dire, Paul Edwards, qu'il y a des moments, des choix technologiques, on fait en sorte qu'on a abandonné l'idée de développer certaines technologies parce qu'elles n'étaient pas directement utiles aux militaires et que les technologies dont on voit aujourd'hui l'héritage sont des technologies qui, toujours à un moment, ont eu une utilité pour les militaires? Est-ce qu'on pourrait aller jusque-là?
Je crois qu'on pourrait aller jusque-là pendant les 20 premières années de la guerre froide. Après, pendant les années 70 et surtout dans les années 80, ça a échappé aux militaires.
Ah, d'accord. Il y a un moment où ça se joue à quel moment où ça échappe? C'est quand la guerre froide devient moins froide, enfin, ou plus chaud, je sais pas comment on dit.
Non, c'est pas ça. C'est que le secteur du développement de la technologie, surtout dans le secteur des ordinateurs, est devenu aussi fort que les militaires ne pouvaient plus le contrôler.
Ah. Mais ce qui est intéressant, c'est que même dans les années 80, on va retrouver ce phénomène-là technopolitique, comme vous le décrivez, avec par exemple la guerre des étoiles lancée par Ronald Reagan. Oui. Parce que ce que vous expliquez, qui est absolument passionnant, c'est que la guerre des étoiles, donc l'idée de créer une sorte de réseau satellitaire qui va permettre d'intercepter tout missile balistique qui proviendrait de la Russie en, je sais pas, 90 secondes après son décollage, etc., c'est qu'au fond, c'est un truc dont on sait très bien que c'est irréalisable, mais ça va produire une sorte d'appel comme ça, à la fois financier, etc., tel que du coup on va développer des technologies qui vont servir à autre chose que ça. Est-ce que ça fait porter un soupçon sur ces technologies numériques, le fait qu'elles aient un rapport comme ça aussi fort à des objectifs militaires, Paul Edwards?
Ce qu'on pourrait dire du système qui est développé pendant la guerre froide, c'est que les militaires avaient tellement d'argent à jeter sur les chercheurs que même si le retour sur l'investissement n'était que 10%, c'était très bien pour eux.
Je voudrais qu'on revienne sur la question de l'URSS et des États-Unis. Les technologies informatiques sont des technopolitiques dans la mesure où elles sont décidées en fonction aussi d'objectifs qui sont des objectifs politiques. Mais au fond, il y a aussi un truc de l'ordre du rapport à la machine. Si les Russes ne font pas ça, c'est aussi parce qu'ils considèrent que les technologies ne doivent pas écraser l'humain, alors que les États-Unis, eux, veulent remplacer les hommes par des machines. Il y a aussi quelque chose de l'ordre d'un rapport comme ça profond à la machine, Paul Edwards, non ?
J'explique à mes étudiants souvent qu'il y avait une équation fondamentale dans la guerre froide, et c'était la suivante. Il y a à la fois la distance entre les États-Unis et l'URSS, puis il y a la vitesse des armes, et puis il y a le fait que les États-Unis ne supporteraient pas une très très grande force armée en temps de paix. C'est la combinaison de ces trois facteurs qui font que, surtout sous Eisenhower, on a fait le choix d'aller vers la technologie et non vers une très grande force armée.
Est-ce que ça veut dire aussi que, du coup, les Russes vont continuer à utiliser des calculateurs humains pour faire des calculs pendant tout, par exemple, tout le travail qui est fait sur le nucléaire? Les Russes, eux, utilisent des calculateurs humains,
oui,
pour faire des calculs pour tout ce qui est... Parce que le nucléaire nécessite énormément de puissance de calcul, alors que eux, les Américains,
oui,
vont informatiser cette partie-là et que ça va faire énormément progresser l'informatique par ailleurs, cette utilisation pour le nucléaire de l'informatisation, Paul Edwards.
Oui, mais c'était vrai dans la première décennie de la guerre froide, et les Soviétiques ont essayé même de développer des ordinateurs, et ils ont réussi, mais pas aussi vite que les États-Unis. Et dans les années 60, ils ont choisi de copier les ordinateurs IBM.
Alors, Paul Edwards, on va se retrouver dans quelques instants pour prolonger cette discussion et notamment observer le lien qu'il peut y avoir avec les questions climatiques à travers deux figures dont vous avez cité les noms déjà, de Forrester et von Neumann. Mais tout de suite, j'ai demandé à Thibaut Henneton cette semaine, je lui ai posé la question de savoir pourquoi est-ce qu'on voit encore des gifs sur Internet. Alors, parce qu'évidemment, à l'heure où on peut voir des images animées d'excellente qualité, pourquoi est-ce qu'apparaissent encore ces petites animations minimaliste présente, qui est presque les débuts de l'Internet.
Pourquoi y a-t-il encore du GIF sur la toile ? Eh bien, précisément parce que ce n'est ni tout à fait de l'image, ni tout à fait de la vidéo. Parce que c'est un format léger, potentiellement viral. Parce que ça se fabrique et s'échange facilement. Parce que, comme devant le mouvement d'un livre animé dont on fait défiler les pages, il y a là quelque chose de merveilleux. Livre animé remonte au Moyen-Âge et il existe toujours. Alors, pourquoi pas le GIF après tout ? En l'occurrence, la question serait plutôt pourquoi les GIFs animés, qui sont en fait une extension dynamique du format d'image GIF, né 2 ans après, en 1989, rencontrent-ils un tel succès ? Il se murmure même qu'un festival du GIF animé pourrait avoir lieu à l'initiative de nos amis de l'atelier des médias sur RFI, à GIF sur Yvette dans l'Essonne. À lire le New York Times, le GIF serait à l'internet ce que le vinyle est à la musique. Un truc bobo vintage sorti du grenier. Un truc d'amateur, mais de vrai, de celui qui sait comment ça se passe, mais vraiment. En attendant le festival à la française, je lis que le GIF a déjà envahi certaines expositions, comme à Miami en décembre dernier à l'initiative de Tumblr, plateforme de blog où les GIFs s'épanouissent. Voyez par exemple ce Tumblr, gif.tumblr.com. Des dizaines de nouveaux GIFs chaque jour, en référence à l'actualité, reprenant telle scène de film avec sous-titres, telle réaction d'oscarisée, tel geste, telle émotion, telle gamelle, et j'en passe. Alors, pourquoi un tel succès du GIF ? Bien, parce que c'est une forme d'hommage à l'histoire de l'Internet, à la photographie, au cinéma et à l'art en même temps. Confère la catégorie technique d'animation sur Wikipédia, pour tout savoir sur la rotoscopie. Ou tiens, ce billet de blog, la représentation du mouvement dans une image fixe. Histoire de l'Internet, je reprends. Le format GIF a été créé par CompuServe à la fin des années 80. CompuServe fut l'un des premiers fournisseurs de services et notamment de courriels, plus tard racheté par AOL. Bon, mais pourquoi une telle notoriété pour un format d'image ? Aujourd'hui, le GIF animé est utilisé tous azimuts, y compris dans des articles journalistiques. Il est un support idéal de storytelling. Je lis ça dans un article de Slate. Le GIF en politique peut illustrer un élément de langage. En sport, il permet de comparer des phases de jeu à première vue semblables, voire de livrer un individu à la vindicte populaire. Souvenir à ce propos. Lors du dernier Euro de foot, été 2012, France-Espagne, quart de finale, Alonso marque de la tête le premier but de l'Espagne. Un peu plus tard, un gif qui avait alors beaucoup circulé, le gif de la honte, montrait, flèche à l'appui, l'absence totale de repli défensif de Malouda. Je dis montrait, mais je devrais dire montre, car le propre du gif est de tourner en boucle, perpétuel présent, perpétuellement offert. Le gif est un gift. Mais d'ailleurs, faut-il dire gif ou gif ? Il existe d'ailleurs, je vois, une page consacré à la prononciation du gif qui se montre péremptoire. Il faut dire gif. Mais je rappelle qu'en français, le G anglais se prononce G, là où le J se dit J. Donc en fait, je ne sais pas comment dire. Paraît même que le vrai gif, ce serait le JPEG, format d'image bien connu et plus récent, car le nom complet du JPEG est JPEG Interchange Format, acronyme GIF. Le GIF animé pour Graphic Interchange Format devrait donc lui se prononcer GIF. Bon, mais pourquoi cette chose est-elle si populaire ? Napoléon disait « Un bon croquis vaut mieux qu'un long discours ». Aujourd'hui, Napoléon Dynamite, l'ado geek du film du même nom, préciserait « Et un croquis dynamique mieux encore ». Pour déformer une autre maxime, de Godard cette fois, l'intérêt du GIF n'est pas tant de confronter des idées vagues avec des images claires, qu'avec des images propices au surf. Logique.
Merci Thibaut. Napoléon et Godard à une phrase d'écart, c'est quelque chose. Des liens sur la page de Place de la Toile, page où vous pourrez aussi réécouter cette émission pendant 1000 jours et la télécharger pendant un an, une Place de la Toile où nous recevons Paul Edwards, professeur à l'Université du Michigan, pour nous parler de ses travaux sur l'histoire des technologies. Alors, deux pans à vos travaux, Paul Edwards, l'informatique et l'ordinateur pendant la guerre froide, on vient d'en parler un petit peu, et puis le rôle de l'informatique dans les controverses autour du climat, ça nous occupera dans la dernière partie de l'émission, a priori de questions très éloignées. Or, manifestement, il y a des liens, c'est-à-dire qu'il y a des gens, et ça passe par des gens, qui ont fait le lien entre cette question du militaire et la question de la météo, des données climatiques, etc. Et dans ces deux personnages, il y en a un auquel on arrivera, dont vous avez parlé un petit peu plus longuement, qui est Forster, qu'on ne connaît pas très bien, mais il y a d'abord, et honneur à celui qui est le plus célèbre, John von Neumann, sans doute un des deux personnes les plus importantes dans l'histoire de l'informatique avec Alan Turing. C'est un génie de l'informatique qui est né en Hongrie au tout début du siècle et qui a fait la plupart de sa carrière aux États-Unis, puisqu'il a été naturalisé américain juste avant la Deuxième Guerre mondiale. Une carrière exceptionnelle et qui l'architecture aujourd'hui des ordinateurs est en grande partie dépendante toujours des travaux à la fois théoriques et pratiques de von Neumann, mais aussi une carrière qui est très militaire.
Von Neumann était à la fois un mathématicien et physicien, un vrai génie du même calibre que Einstein. Il avait un personnage assez frappant, il était bon vivant, mm-hmm. Il aimait les femmes, il aimait boire. Il a travaillé à Los Alamos pendant la Deuxième Guerre. Il a fait partie du groupe qui a construit la première bombe atomique. Et en tant que mathématicien, il a utilisé des machines à cartes perforées à faire ça. Et vers la fin de la guerre, il s'est rendu compte qu'il y avait cette fameux ENIAC, qui était un cours de construction à l'Université de Pennsylvanie.
Donc un ordinateur qui avait été au départ créé pour faire du calcul balistique, oui. Mais dont la construction n'a pas été achevée suffisamment vite pour faire ce calcul balistique, c'est ça ?
C'est ça. Et donc, il faisait partie de ce groupe qui travaillait sur l'ENIAC et qui aussi, en même temps, était en cours d'envisager le prochain ordinateur. Il a écrit en 46 un brouillon d'un rapport sur l'EDVAC, qui était l'ordinateur qui allait suivre l'ENIAC. Et c'était pas son idée à lui, mais c'était quand même une idée très importante. C'était l'idée d'une mémoire, une seule unité de mémoire dans l'ordinateur qui allait conserver à la fois les logiciels et les données sur lesquelles les logiciels travaillaient.
Ça, c'est l'architecture qui est effectivement toujours valable pour aujourd'hui.
Oui, toujours valable et toujours appelée von Neumann, bien que ça a dû être appelé Eckhard Mauchly.
Voilà, c'est parce qu'il n'était pas totalement l'inventeur, mais c'est pas grave ça.
Mais quand même, il est devenu très célèbre à cause en partie de sa personnalité très, très vif. Il est devenu après la guerre un peu un personnage politique. Il a essayé d'utiliser cette influence pour faire avancer des projets où il avait intérêt. Un de ces projets était bien sûr l'EDVAC, mais un autre projet était comment faire en sorte que les ordinateurs deviennent quelque chose que les civils auraient apprécié. Donc il a cherché, il a essayé de trouver quelque chose que les ordinateurs pouvaient faire qui à la fois intéressait à lui et serait intéressant pour les civils aussi. Et il l'a trouvé dans la prévision météorologique. Et là, il a commencé un projet sur ce qu'on appelle maintenant la prévision numérique du temps. Il a écrit des propos pour l'armée de l'air aux États-Unis et le service météorologique en même temps. Il a formé un groupe qui travaille à Princeton et qui a fait en 1950 la première prévision numérique du temps sur le NIAC.
Ah ouais, donc sur un ordinateur militaire. Oui. Ah, c'est intéressant ça.
Oui.
Ah
oui. Et à la fin des années 70, ils avaient construit des modèles numériques globaux pour prévoir le temps.
Est-ce qu'il y a un lien parce qu'au fond, ça signifierait que la météo, c'est aussi des constructions algorithmiques et de calculs complexes. D'accord, donc il y a un lien.
Et c'est, il faut voir là le lien avec von Neumann, le mathématicien. Parce que ce qu'il cherchait, c'est que c'était un problème qui aurait des équations non linéaires de la dynamique des fluides.
Ah ouais. Donc,
parce que ça, c'est le même problème que les explosions atomiques.
Et donc c'est un lien qui est un lien à la fois industriel et théorique.
Ils ont lu les mêmes textes des deux groupes parce que les problèmes numériques et les équations mêmes étaient les mêmes.
On comprend bien donc comment le lien se fait pour von Neumann. En revanche, pour Forster, qu'on connaît un peu moins, qui est un personnage moins charismatique, qui est un monsieur toujours vivant, il est né en 1918. Alors vous nous avez expliqué tout à l'heure donc qu'il avait participé à ce projet SAGE, donc extrêmement important pour l'histoire de l'informatique, évidemment militairement. Alors comment lui il fait un pont avec la question météo, Paul Edwards.
D'abord, un peu sur son personnage, qui était un peu l'opposé de von Neumann. Et, il était un homme confiant, mais pas une personnalité très vive. Il était né en Nebraska, au milieu des États-Unis, qui est un endroit connu pour des personnes, disons, pas très animées.
C'est pas Budapest.
Il est très sérieux. Ouais. En 1956, il s'est décidé que la problématique des ordinateurs était bien en voie et il pouvait le lâcher. Il est entré dans le Sloan School of Management à MIT,
où MIT,
il est devenu prof de gestion. Un peu bizarre pour un homme comme ça. Mais si on voit sa carrière dans sa perspective globale, ça fait du sens. Parce qu'il était ingénieur, son éducation était dans les systèmes de contrôle de systèmes complexes. Donc il a fait ça avec son ordinateur pour les militaires, et puis il a fait ça pour les industriels dans ses études de gestion. Il a écrit une série de livres, la première desquels s'appelle Industrial Dynamics, la dynamique industrielle. Et c'est une espèce de modélisation de les entrées et sorties de matières premières et d'argent, etc., dans une firme industrielle pour comprendre le problème de stockage qui était assez difficile à l'époque.
On voit toujours pas comment les questions météo sont reliées à ça.
Non. D'accord, j'y vais. C'était pas dans les questions météo, mais c'était dans le domaine de la modélisation de l'environnement.
Ah, d'accord.
Parce qu'après la dynamique industrielle, il a fait un livre sur la dynamique urbaine, c'est-à-dire les grandes villes. Et ensuite, il a été recruté par le Club de Rome pour faire un modèle du monde entier pour ce qu'ils appelaient à l'époque la problématique environnementale.
Et donc c'est pareil, c'est parce que là, ce qui va faire le lien, c'est plus tellement l'équation comme c'était le cas chez von Neumann, mais c'est plutôt la question de la modélisation
c'est
de
ça.
Gros flux. Et qui fait glisser du militaire à l'environnement.
De stockage, de source de fuite de matériel et de quantité naturelle.
Donc où on voit, ce qui va être le point de départ de notre question suivante, où on voit que l'informatique, le rapport entre informatique et soit météo, soit environnement, en fait, c'est un rapport assez ancien et très théorique au fond.
Oui, oui. Et ces deux hommes, donc von Neumann, on pourrait dire qu'il est l'arrière-père de la prévision météorologique et il a même conçu les modèles climatiques qu'il appelait à l'époque la prévision infinie. C'est-à-dire la prévision du temps jusqu'à
la fin
du temps. Quoi.
Ah, c'est magnifique ça. Paul Edwards, on va continuer. Alors là, évidemment, on va glisser plus sur aujourd'hui, enfin il n'y a pas très très longtemps, 2009, et la question des données climatiques et du rôle de l'informatique dans les données climatiques. Mais tout de suite, la lecture de la semaine. La lecture de la semaine provient encore une fois de The Atlantic et de l'excellent Alexis Madrigal qui revient sur une discussion qui a un peu agité les spécialistes des technologies américaines au courant du mois de janvier, début février, autour du numérique et des rencontres amoureuses. Voilà. L'article de Madrigal s'intitule « Il n'y a pas de preuve que les rencontres en ligne menacent l'engagement et le mariage aux États-Unis ». Alors Madrigal a écrit son papier, il faut le savoir, en réponse à un article publié dans la version papier de The Atlantic, article de Dan Slater qui postulait que les sites de rencontres menaçaient la monogamie aux États-Unis. Alors à partir de l'exemple d'un certain Jacob, une sorte d'hétérosexuel blanc un peu beauf et qui accuse les sites de rencontres de l'empêcher de rencontrer la femme de sa vie, cet article développait une théorie selon laquelle les sites de rencontres multiplient les possibles amoureux, que la multiplicité des possibles rend insatisfait et rend plus compliqué l'engagement dans une relation stable. Et si Internet rendait la rencontre trop facile? Et s'il était un facteur de l'instabilité amoureuse? Alors Alexis Madrigal, on le sent, est un peu énervé par cette argumentation et il entreprend de la démonter pied à pied. Un, d'abord. Il dit, selon lui, cette argumentation sert les propriétaires de ces sites qui, s'ils cherchent à attirer des gens à la recherche d'une relation durable, ont tout intérêt, du point de vue marketing, à entretenir l'idée qu'ils fonctionnent tellement bien, qu'on y fait tellement de rencontres, on s'y amuse tellement, qu'on préfère passer de relation en relation plutôt que de s'arrêter. Deuxièmement, Madrigal dit par ailleurs qu'on a très peu de chiffres crédibles pour avaliser la théorie de Slater et même que les études disponibles tendraient à prouver l'inverse. Par exemple, dit-il, on observe depuis 30 ans une baisse des divorces dans la population qui utilise le plus assidûment les technologies, c'est-à-dire les gens aisés et bien éduqués. Ensuite, une seconde étude datée de 2008 s'est intéressée au fait de savoir si Internet aidait les gens à trouver des partenaires amoureux et cette étude concluait qu'Internet profitait davantage à ceux qui étaient dans des zones de recherche plus étroites, c'est-à-dire soit géographiquement, soit par l'âge, etc. Qu'Internet participait donc à l'augmentation du taux de mariage dans ces populations. Donc, l'étude concluait par ailleurs qu'il n'y avait pas de différence de manière de vivre entre ces couples rencontrés en ligne et les couples rencontrés hors ligne. Trois, il est très probable, pour Alexis Madrigal, que le marché amoureux, entre guillemets, soit bouleversé par bien d'autres paramètres que l'introduction des technologies. Par exemple, ce même papier de 2008 expliquait que les changements les plus importants dans la vie amoureuse américaine étaient à mettre au crédit des espaces de travail mixtes, c'est-à-dire de plus en plus de gens travaillant dans des lieux, hommes et femmes, où ils sont donc susceptibles de faire des rencontres. Il faudrait réfléchir, ajoute Madrigal, aux conséquences des changements de normes de genre, par exemple, aux évolutions dues à la crise économique, aux lieux d'habitation des gens dont les couples durent plus longtemps, au poids aussi de la religion dans tout ça, poids déclinant de l'Église et montée en puissance de la ferveur évangéliste. Il faudrait réfléchir à l'acceptation des naissances en mariage, mais aussi à l'homosexualité et son acceptation, en particulier chez les populations les plus jeunes, etc. Et tout cela pourrait avoir une influence très forte sur la manière dont les gens se rencontrent et tombent amoureux aujourd'hui. Conclusion de Madrigal, et elle est valable pour bien d'autres champs que celui de la rencontre amoureuse. Si vous êtes sur le point, dit-il, de développer une argumentation bien déterministe, eh bien vous avez l'intérêt à avoir les preuves que c'est bien la technologie qui en est l'acteur. À tout moment, dans notre vieux monde, de nombreux changements ont lieu doucement, presque en catimini, et soudain, dans ce monde, apparaît une nouveauté étincelante, la technologie. Et des gens, les intervenants des conférences TED, des adolescents qui font du skate, des entrepreneurs, un grand-père, des publicitaires, une charcutière, une comptable, se lèvent au milieu du tourbillon blanc de l'avenir qui se rapproche, ils regardent un peu au loin et ils disent « Cette technologie change tout ». Identifiée comme la seule vraie cause de tout ce qui se passe de bon et de mauvais à notre époque, la magie technologique semble tout expliquer. Bien sûr que la technologie a des impacts, dit Madrigal. Certains types de technologies, comme le nucléaire par exemple, contiennent en eux-mêmes de la politique. Certains systèmes technologiques, comme le réseau électrique ou celui de la téléphonie mobile, facilitent grandement certains types de comportements, en rendent d'autres plus difficiles. Une technologie peut, à partir d'un certain nombre d'interactions, produire un certain type de résultat. On peut donc dire que dans un certain sens, la technologie cherche un résultat. Le réseau électrique cherche à ce que vous vous branchiez. Les propriétaires de Facebook cherchent à ce que vous postiez des photos. Ils créent des outils techniques et statistiques pour que ce soit plus facile. Mais si vous ne parlez plus avec votre cousin, parce qu'il est plus facile d'écrire un statut Facebook que de lui passer un coup de fil, il n'est pas juste de dire que c'est parce que Facebook vous y a poussé. Si vous ne lisez plus de romans parce que vous trouvez Twitter plus attirant, ce n'est pas Twitter qui vous y a poussé. Peut-être que vous préférez l'actualité en temps réel aux sœurs Brontë. Quoi qu'en dise l'image que vous avez de vous-même. Peut-être Jacob, ce Jacob pris comme exemple au tout début, ne veut-il pas se marier, au fond? Peut-être veut-il se bourrer la gueule, baiser, regarder du baseball à la télé et ne jamais avoir affaire à la profondeur d'une vraie relation. Ok Jacob, bonne chance, mais ça ne fait pas des sites de rencontre une force inéluctable qui déchire le ciel du romantisme. C'est juste le moyen pour Jacob d'atteindre sa fin et le bouc émissaire commode pour justifier des comportements qui autrement le mèneraient à s'auto-dénigrer. Vous retrouverez cette lecture bien libérale lundi sur Internet Actu. Alors tout de suite, pas vraiment un son, mais une sorte de petit concours à l'adresse de vous, auditeurs et auditrices de Place de la Toile. Voilà, quelques sons qu'on a puisés dans un petit musée de sons en voie de disparition, donc des sons dont beaucoup préviennent des technologies en voie d'obsolescence. C'est Aurélie Charron des Ateliers de la Nuit qui nous a envoyé ce lien, alors Thibaut l'avait déjà repéré. On a fait un petit montage, vous devez les reconnaître et vous nous envoyez un petit mail en les citant les uns après les autres et numérotés. Premiers qui enverront la liste exacte auront le droit à une nuit avec Thibaut Henton. Vous écoutez France Culture et Place de la Toile magazine, et ensemble, hein, magazine des cultures numériques, dernière partie de nos discussions avec Paul Edwards, professeur à l'université du Michigan où il enseigne l'histoire des technologies. Alors, dernière partie où on va aborder la place de l'informatique et des technologies en matière de climat et de controverses climatiques. On va commencer, puis ça va être notre centre, par le Climate Gate, Paul Edwards. Alors, je rappelle juste les circonstances. Novembre 2009, on est tout près du grand sommet de Copenhague, et quelqu'un, on ne sait toujours pas de qui il s'agit d'ailleurs, fait fuiter des milliers de courriels et de données issus du Climatic Research Unit de l'université de East Anglia au Royaume-Uni. Une fuite aux conséquences absolument terribles pour les partisans de la lutte contre le changement climatique, puisqu'elle porte le doute sur la manière dont les calculs sont effectués, sur le travail mené par le GIEC, hein, le groupe d'experts intergouvernementaux sur l'évolution du climat, et donc elle porte le doute sur la validité de la thèse selon laquelle le climat serait en train de changer sous l'effet de l'activité humaine. Alors en quoi, selon vous Paul Edwards, cette histoire illustre-t-elle la place prise par l'informatique dans les discussions sur le climat et après par incidence sur la science et la manière dont elle se fabrique ?
J'ai sorti un livre en 2010 qui s'appelle A Vast Machine, qui est sur l'histoire des données climatiques et des modèles numériques du climat et les liens entre les deux. Et dans ce livre, qui est un peu une histoire de la connaissance climatique, je me demande comment est-ce qu'on sait que le climat existe, que ça change, et comment est-ce qu'on trace les changements au fil du temps. Parce que je ne vais pas vous raconter toute cette histoire, mais au bout de notre première discussion, là, on a dit qu'il y avait deux types de modèles. Il y a la simulation du temps et du climat, Il y a aussi la simulation de l'environnement dans son interaction avec les êtres humains. On a acquis au fil du temps tout un réseau pour capter des données sur l'état du temps et du climat. Ça peut nous rappeler un peu le système SAGE, parce que c'est un système qui consiste de capteurs sur des satellites, des capteurs sur Terre, dans les stations de surface, sur des navires, dans les avions, etc., etc. C'est un très, très grand réseau de capteurs, tout genre. C'est différent aujourd'hui qu'il était il y a 50 ans, et avant ça, c'était différent et moins étendu, etc.
Oui, c'est vrai que à la fois les outils étaient différents, à la fois on prenait pas les données aux mêmes heures, oui. Dans des conditions qui étaient les mêmes, etc. C'est vrai qu'il y a un niveau de différence et de complexité à la fois sur le temps et puis sur la géographie, enfin, etc., qui est monstrueusement complexe.
Oui. Et donc, comment est-ce que les climatologues arrivent à en faire une base de données cohérente de toutes ces différentes données acquises partout dans le monde, par des pays différents, dans une perspective temporelle très étendue? La réponse, c'est qu'ils modélisent les données. Donc il y a deux types de modèles. Il y a la simulation de l'atmosphère et des océans et des systèmes climatiques, mais il y a aussi la modélisation de données. Et c'est là qu'on pourrait commencer à discuter ClimateGate. Parce que là aussi, il faut un peu de
perspective.
Au début des années 2000, c'était l'époque de blogs. Les premiers blogs sortaient. Et à cette époque, en 1999, est sortie une étude de Michael Mann et ses collègues qu'on appelle maintenant la crosse de hockey. C'est une reconstruction des températures moyennes globales depuis l'an 1000, à partir de plusieurs bases de données. Par exemple, les cernes des arbres, depuis le milieu du 19e siècle, des thermomètres. Donc, cette étude est sortie, et ce que ça a fait pour certains climato-sceptiques, c'était de détruire ce qu'on appelle l'optimum climatique médiéval. C'était une période de température en hausse en Europe, à peu près entre 1000 et 1200 ans. Alors, l'étude qui a établi cet optimum climatique médiéval a été menée en 1965 par un climatologue qui utilisait des données uniquement en Angleterre. La crosse de hockey mit en question cette idée, parce que c'est une étude globale. Ils ont recueilli des données un peu partout dans le monde et ils ont reconstruit la température moyenne globale. Et il se trouve que depuis l'an 1000, on n'a jamais eu des températures en hausse comme aujourd'hui. Donc, ces climato-sceptiques ont été un peu dérangés par cette étude. Ils ont établi un blog qui s'appelle Climate Audit. Et le principe de ce blog était qu'il faut que les climatologues, la science du climat, soient audités par des gens qui ne sont pas eux-mêmes climatologues. Parce que les climatologues
ont tout intérêt à ce que le climat change.
C'est ça qu'ils disent. Il y avait deux hommes derrière ça. Steve McIntyre, qui est un ingénieur minière en retraite, un Canadien. Et Steve McKittrick, qui est un économiste. Et ils ont essayé d'avoir les données qui étaient à la base de cette reconstruction. Les scientifiques qui ont fait la reconstruction ne voulaient pas leur donner toutes leurs données. Mais après un certain temps, ils leur ont donné
ouvert
les données.
Ouais.
Oui. Mais Climate Audit voulait aussi le code source qu'ils ont utilisé pour modéliser les données. Et ça, ils ne voulaient pas leur donner. Donc, Climate Audit a fait tout un scandale là-dessus et ça continue jusqu'à nos jours. En fait, Michael Mann vient de sortir un livre sur cette expérience et il est toujours en cours d'être assassiné dans la presse aux États-Unis. Alors, ça, c'est la fondation. Alors, ClimateGate, comment ça s'est passé? En 2009, McIntyre, de Climate Audit, a passé 58 requêtes pour l'unité de recherche climatique de l'Université de East Anglia, en Angleterre, pour avoir accès à ces bases de données. Ensuite, il y avait le fuite dont vous avez parlé. C'était McIntyre qui était le premier à publier la fuite sur son blog. Qu'est-ce que j'en dirais? C'est un épisode qui illustre le lien étroit entre les bases de données climatiques et la modélisation des données. Parce que McIntyre, lui, a essayé de trouver des fautes dans les moyens statistiques qu'ont utilisés les climatologues. Il a trouvé des petites erreurs.
Oui, mais qui ne remettent pas en cause la théorie générale. Ouais.
Exactement.
Ouais. Ouais. Parce que en fait, ce qui est intéressant dans toute cette histoire, c'est que ça illustre des choses à différents niveaux, me semble-t-il. C'est-à-dire, d'abord, le rôle essentiel de l'informatique dans tous ces calculs, à la fois en termes de masse de données, effectivement, et de modélisation, parce que comme ces données, elles sont prises, je le disais tout à l'heure, sur des instruments très différents, à des moments très différents, etc. Ne serait-ce que pour pouvoir les mettre en commun, il faut déjà les travailler informatiquement, ces données, pour au moins les harmoniser, pour pouvoir les comparer, pour pouvoir les faire rentrer dans les mêmes tableaux. Donc ça, c'est la première chose. Deuxièmement, il y a ensuite, effectivement, des modèles généraux qui eux-mêmes ressortissent à des algorithmes, etc. Et que du coup, à partir du moment où on rentre dans l'informatique, c'est-à-dire qu'on rentre dans des controverses qui sont des controverses qui touchent aussi des questions de code source. Oui. C'est-à-dire que c'est ça c'est aussi des controverses qui ne sont pas simplement des controverses théoriques, etc. Oui. C'est des controverses informatiques. Donc il me semble que ça, c'est une des premières leçons. La deuxième, c'est sur la question de la transparence de la science. C'est-à-dire qu'effectivement, à partir du moment où il y a quelques données, jusqu'où on doit aller dans la transparence de son travail. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut aller jusqu'à... Est-ce qu'on doit donner jusqu'au code source des algorithmes de modélisation, tout ça dans un contexte, et c'est là où c'est absolument passionnant et c'est où ça va largement au-delà des questions strictement des sciences du climat, c'est que dans un contexte où les gens qui sont contre ces théories-là, c'est-à-dire les gens qui ont été rejetés jusqu'à maintenant par la science, depuis ce que montrent les travaux de Bruno Latour, ça depuis très longtemps, eh bien, ils ont aujourd'hui des moyens qui sont pas très loin des moyens des scientifiques.
Oui, c'est ça.
Et voilà, en termes, ils ont des ordinateurs personnels, les bases de données qui sont quand même plus ou moins ouvertes, même si elles sont, il y a certaines données qui restent la propriété des pays, quand même, ils ont des données. Ça, et ils peuvent faire tourner des choses. Et que du coup se construit pour la science la nécessité de justifier au plus profondément son travail. Et il me semble que c'est ça, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, c'est, il me semble que c'est ça qui illustre tout votre travail sur la question de la science du climat. C'est qu'au fond, on est dans un nouveau rapport des sciences et de leur public, me semble-t-il.
Oui. L'ouverture de la connaissance qu'on est en train de subir maintenant avec le web, de la science, des moyens de savoir, ça mène en quelque sorte à ce que j'appelle des guerres de données.
Ouais.
C'est-à-dire, moi, j'ai ma base de données à moi, et vous avez votre base de données, et ma base de données est meilleure que la vôtre. On conteste à peu près tout. On conteste les bases de données, on conteste les modèles d'analyse de données, on conteste aussi les interprétations de ces analyses. Et bientôt, je crois qu'on va voir des contests sur les simulations de climat.
Bien sûr.
Ça, c'est beaucoup plus difficile parce que le niveau de connaissance qu'il faut pour comprendre un modèle climatique est beaucoup plus haut. Mais quand même, il y a déjà des projets pour ouvrir la modélisation du climat et des gens qui construisent leur propre modèle.
Et on va devoir finir là-dessus, mais c'est aussi, c'est très intéressant que vous parliez de guerre de données, parce qu'on parle de big data, etc. Et qu'au fond, il y a quelque chose qu'il faut aller voir, même au-delà de la question de la donnée, c'est la manière dont elle est construite, et les modèles climatiques pour ça sont vraiment très intéressants, c'est que la construction même de la donnée est extrêmement problématique et qu'au fond, un des sites climato-sceptiques, par exemple, s'est amusé à aller voir si les sondes fonctionnaient bien ou pas. Ils se sont trouvés sur des sites où, effectivement, enfin, des endroits où les sondes étaient toutes vieillottes, etc. Ils ont dit, on peut pas calculer, on peut pas faire des bons calculs avec des sondes aussi vieillottes et des thermomètres aussi vieillots, etc. Sauf que, ce qu'ils ne savaient pas, c'est que, parallèlement, ces données produites par ces outils un peu défectueux étaient elles-mêmes travaillées, remodélisées, retravaillées, etc., pour devenir des données fiables. Et donc, du coup, je trouve ça très intéressant, c'est que dans la guerre des données, il faut quand savoir comment elle se fabrique. Bon, désolé, on va devoir en terminer là, Paul Edwards, parce que l'émission arrive malheureusement à sa fin. Merci beaucoup d'être venu nous voir à l'occasion de votre passage à Paris.
C'était un vrai plaisir.
Et écoutez, bon retour dans quelques mois ou quelques semaines à vos États-Unis, dont nous parlons beaucoup ici dans Place à la Toile. La semaine prochaine, à l'heure où des projets de réforme des marchés financiers visent à interdire le high frequency trading, on se demandera ou au moins régulé, Thibaut, France de l'œil. On se demandera comment les ordinateurs ont pris le contrôle de la bourse. Ce sera donc samedi prochain dans Place de la Toile. Place de la Toile, Thibaut Henton, Xavier Delaporte à la technique, c'était Dali Yaha, réalisation Olivier Guérin. Tout de suite, Ligne de fuite, la chronique d'Edoui Plenel. Bonne soirée, bonne semaine.